Pour le journal.
6h-9h le samedi. L'époque.
Chercher un emploi, demander un document administratif, s'inscrire à un examen, payer ses factures, pour toutes ces démarches, il faut bien souvent aujourd'hui aller sur Internet. Si c'est une simple formalité pour beaucoup, pour d'autres, c'est compliqué, voire impossible. Pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment le numérique et qui doivent renoncer à faire quelque chose parce que c'est en ligne, ces personnes, on les appelle des abandonnistes. Alors qui sont-elles? Comment les aider? Quelles sont les raisons de cette exclusion numérique? Comment lutter contre? On va tenter de répondre à toutes ces questions ce matin avec nos chroniqueurs Théo Chavaya et Mathieu Truffert et notre invité Jean-Claude Domingeot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert d'éducation aux médias et à l'information, auteur du blog éducationaumédias.ch. Vous connaissez bien ces questions d'exclusion, de fracture numérique et vous avez des pistes à nous donner ce matin pour y répondre. On va les entendre. Mais d'abord, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, Mathieu Truffert, commençons par une définition.
Oui, bonjour Yann, bonjour à toutes et tous. Alors, à l'origine, l'abandonnisme est un terme médical. C'est une névrose qui désigne une personne souffrant de la peur, précisément d'être abandonnée par ses parents ou par ses proches. Transposé dans le monde numérique, l'abandonniste, c'est celui qui renonce, par choix, par incompétence ou par lassitude, à entreprendre une démarche qui implique l'utilisation d'un ordinateur. Ça peut être payer une facture, s'inscrire à un cours ou évidemment, c'est temps, prendre rendez-vous pour un vaccin. Il peut s'agir vraiment de gestes tout à fait banals. Typiquement, l'abandonniste télécharge l'application des CFF, il patauge un moment dans les menus, puis, vaguement agacé, il descend à la gare et il fait la file au guichet.
Et qui sont-ils, Mathieu, ces abandonnistes?
Alors, la question est plus compliquée qu'il n'y paraît, Yann, parce qu'on pense volontiers aux personnes âgées. Elles sont plus nombreuses que la moyenne, c'est vrai, même si, selon Pro Sénectute, la situation évolue vite. Beaucoup de 65-80 ans sont aujourd'hui compétents avec le numérique et donc pas davantage concernés que le reste de la population. Alors, l'abandonnisme touche aussi des catégories de la population qu'on n'a longtemps pas su identifier, des gens équipés et connectés, mais il ne suffit pas de poster sur les réseaux des photos de vacances à la plage ou de Médor devant le canapé du salon pour être capable d'entreprendre une démarche administrative, même toute simple. Beaucoup de jeunes, parce qu'ils passent des heures sur leur smartphone, souvent sur des jeux, créent l'illusion. Or, ils sont désemparés à l'idée d'écrire un mail ou de remplir une postulation en ligne. C'est un paradoxe, mais les enfants du numérique sont aussi des candidats à l'abandonnisme numérique. Il ne suffit pas d'avoir les outils, il faut savoir les utiliser.
Et est-ce qu'on a, Mathieu, des chiffres ou des statistiques?
Alors là encore, exercice difficile. Parce que l'abandonniste numérique ne se vante pas trop en général. Comme l'analphabète qui peine à lire ou à écrire, il est souvent dans le déni. Il sollicite des proches lorsqu'il se heurte à une difficulté. Il trouve des astuces pour contourner le problème. Il se cache volontiers. Alors il n'y a pas d'études détaillées en Suisse, mais à titre indicatif, on peut citer l'étude française commandée par le syndicat de la presse sociale qui estimait en 2018 qu'une personne sur cinq était concernée. Hommes et femmes sont égaux face au problème. Les jeunes seniors, donc 50-64 ans, sont surreprésentés avec 25% des cas. Mais il y a aussi des moins de 35 ans, comme on le disait, c'est 15% des cas. Surreprésentés aussi les citoyens peu ou pas diplômés et d'origine modeste. Les abandonnistes seraient à égalité dans les agglomérations et les zones rurales. Bref, ils sont un peu partout dans la société et de plus en plus menacés de devenir des citoyens de seconde zone.
Merci Mathieu Truffert. Jean-Claude Domingeot, on l'entendait, difficile d'avoir des chiffres précis sur ces abandonnistes, comme de manière générale sur les exclus du numérique. Comment ça s'explique, ça, ce manque de chiffres, ce manque de données?
Eh bien, comment ça s'explique? Je pense qu'il y a une volonté politique de pas aller dans ce sens. Je pense au fait que récemment, en tout cas, on en avait une indication avec le conseiller, l'élu Monsieur Reinhardt, qui a déposé un postulat sur l'exclusion numérique et qui, n'a pas été reçu par le Conseil fédéral, prétendant que les études étaient disponibles. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons des études, mais qui sont... par exemple, nous avons des très bonnes études sur les personnes âgées, faites par Pro Sénectute. Un domaine dont, qui a été évoqué par votre chroniqueur, c'est les jeunes, dont on ne connaît pas du tout ce, où ils en sont, ou disons on le connaît bien par les études JEMS, faites par la HES Zurich depuis 10 ans environ. Excellente étude, mais elle porte sur les loisirs médias et les loisirs non médias. C'est une source alors absolument exceptionnelle, mais on ne peut pas se baser là-dessus. Et d'ailleurs, le Conseil fédéral, ou les personnes qui ont rédigé évidemment sa réponse, arguer du fait que, par rapport à cette étude, tout allait bien, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas. Et j'aimerais juste citer encore un chiffre, parce que votre chroniqueur disait qu'on ne connaissait pas des chiffres. Ici, le chiffre de la Fédération Suisse pour la formation continue, qui est un important organisme, a donné comme chiffre 1,5 million de personnes entre 16 et 65 ans ne possède que peu ou pas du tout de compétences en matière de TIC, ce qui donne le même pourcentage que celui évoqué par rapport à la France, entre 18 et 20%, ce qui est absolument énorme.
Et on le disait, hein, dans ces profils des abandonnistes, Mathieu nous le disait, ça touche tout le monde, y compris les jeunes, comme cette genevoise d'une trentaine d'années qui témoignait il y a quelques semaines au TJ de la RTS sur ses difficultés d'envoyer un simple email.
Ce qui est difficile, c'est quand on écrit un email, on a plusieurs cases. Il faut vraiment écrire à la bonne place, en fait, l'adresse email, déjà, pour qu'il puisse partir. Donc ça m'est déjà arrivé en pensant que j'ai réussi à envoyer un email et en fait, il n'est pas arrivé.
Avoir 30 ans et avoir de la peine à envoyer un email, on a aussi entendu pendant le semi-confinement certains jeunes pour qui faire l'école à la maison, travailler sur Word, c'était très compliqué. Ça tord le cou un peu aux clichés qu'on peut avoir sur ces générations hyper connectées. Jean-Claude Domingeot, comment ça s'explique, ça, vous, l'expert en éducation aux médias? Il y a un manque cruel d'éducation au numérique encore aujourd'hui?
Alors, je pense qu'on peut le dire. Je dirais dramatique, mais qui n'apparaît pratiquement jamais. Par exemple, là j'ai recherché une étude de PISA qui concerne PISA 2008. Dans le cadre de l'étude PISA, en plus des domaines sur lesquels elle porte d'habitude, il y a 2 ans, en 2018, ils ont posé la question de l'usage des technologies de l'information et de la communication à l'école. Donc ils ont demandé aux élèves, à des nombres très très importants d'élèves, quel était leur usage. Et il y a une statistique absolument, je trouve, grave, c'est que l'usage au quotidien dans la classe par les élèves, pas par le professeur qui expliquerait quelque chose avec un tableau interactif numérique, mais bien les élèves en train de travailler, d'apprendre, eh bien ils sont entre 70 et 90% à dire qu'ils n'utilisent jamais un ordinateur pour apprendre. Hein, par exemple, en français, plus des deux tiers n'utilisent jamais un ordinateur. Et donc ça, c'est un des problèmes, un des problèmes, c'est l'usage utilisé pour se rendre compte des problèmes, pour apprendre. Ça serait d'ailleurs aussi un fantastique moyen, s'ils utilisaient beaucoup plus intensément avec leurs professeurs en classe, bien sûr sous la direction de leur professeur, s'ils utilisaient ces moyens, parce qu'ils pourraient ainsi avoir des questionnements par rapport à des éléments éducatifs tels que les agressions via les médias, les réseaux sociaux, enfin, etc., pourraient être abordés en quelque sorte par la tangente, non pas sous forme d'un exposé, mais dans le cours normal du travail en classe.
Donc encore un gros travail à faire en matière d'éducation au numérique auprès des jeunes, c'est ce que vous nous dites, Jean-Claude Domingeot. Est-ce que le Covid, quelque part, a aussi été révélateur de cette carence-là, de ces inégalités numériques?
Alors absolument, parce qu'il y a de nombreux articles dans la presse, il y a de nombreuses émissions qui ont parlé de ça dans les médias, il y a aussi de nombreuses études scientifiques. Mais de nouveau, par rapport à la question initiale, personnellement j'ai tenté de savoir, d'avoir des nombres, et pas en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, mais en Suisse, parce qu'on est toujours moins conscient des problèmes quand les données sont ailleurs, parce qu'on peut toujours se dire « Ah, mais chez nous, c'est différent ». On vient de voir avec un exemple que ce n'était pas le cas.
Et c'est compliqué d'avoir ces chiffres en Suisse, c'est ce que vous nous dites. On a encore des lacunes là autour. On va se demander maintenant comment on peut aider ces abandonnistes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Bien, il existe des endroits où on peut apprendre à maîtriser ses angoisses face aux outils digitaux en se familiarisant avec ces technologies. C'est le cas notamment d'Intergène. Intergène, c'est un atelier d'entraide numérique situé à Lausanne, ouvert aux utilisateurs débutants ou hésitants. C'est un atelier qu'anime Emmanuelle Germont, informaticienne depuis plus de 20 ans. Elle se définit elle-même comme une traductrice geek humain. Théo Chavaya l'a rencontrée cette semaine et lui a demandé ce que propose Intergène.
C'est d'offrir un espace où les gens peuvent vraiment poser leurs questions librement, sans avoir cette impression de poser la question bête, de pouvoir vraiment voir tous les aspects du numérique. Ça peut aller de la question très très pragmatique, qui est « j'ai besoin de pouvoir faire ça, c'est mon premier téléphone, c'est mon premier ordinateur » ou alors « je sais que je vais y arriver, mais j'aime mieux avoir un filet de sécurité avec un informaticien ». Puis ça peut être la personne qui a une question sur les votations, comme on l'a vu récemment, ou sur la loi sur le renseignement, l'identité électronique, tout ça, des choses qui touchent l'informatique et que les gens ne savent pas où situer.
Est-ce qu'il y a un événement ou un déclencheur qui peut inciter certaines personnes à franchir le pas et à venir ici ?
Ceux qui viennent ici, c'est systématiquement parce qu'ils ont entendu parler que ça existe. Donc ça veut dire qu'en fait, beaucoup de gens ont déjà ces questions dans leur tête. Simplement, soit ils ne savent pas où les poser, soit ils n'osent pas les poser. Ils ont tellement l'habitude d'être maternés, d'être infantilisés dans l'informatique, qu'ils finissent par laisser tomber. En plus, j'ai la chance, étant une femme, d'avoir beaucoup de femmes qui viennent parce qu'elles osent aussi plus facilement poser des questions à une informaticienne femme qu'à un informaticien homme. Vu que c'est une profession très masculine, où les femmes se sentent souvent très larguées, même si elles ne sont pas plus larguées que les hommes, loin de là.
Vous avez l'impression que les femmes sont plus conscientes de ce qu'elles ne savent pas en informatique que les hommes ?
Je pense que le fait que les hommes soient majoritairement informaticiens, un, donne une confiance à beaucoup d'hommes de croire qu'ils sont capables en informatique alors qu'ils ne le sont pas, et d'un autre côté, donne la conviction à beaucoup de femmes que ça ne sert à rien de demander parce qu'on lui fera « Mais vous inquiétez pas, ma petite dame, on va vous aider ». Cette crainte ou cet énervement à ce côté infantilisant fait que les gens aiment souvent mieux venir poser des questions à une femme qu'à un homme.
De manière générale, Emmanuelle Germont, dans quel domaine a-t-il plus de lacunes ou de difficultés ?
C'est la compréhension. Comment ça marche ? La question, mais pourquoi ça fait ça ? Comment fonctionne un ordinateur ? Comment fonctionne Internet ? Les gens, ils vont dans un magasin, ils achètent Internet, ils reviennent à la maison, ils ont acheté Internet. Mais ils ne savent pas ce que c'est Internet. En informatique, on n'a pas cette connaissance de base. Et du coup, c'est très difficile de prendre des décisions, que ce soit pour soi, pour les autres, ou en tant que citoyen dans une votation. Du coup, les gens subissent au lieu d'agir. Et ça, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien du tout qui définit ça. Les questions, c'est pour tout le monde.
Emmanuelle Germont, une fois que les bases sont assimilées, qu'une certaine autonomie est acquise, j'imagine que ça doit générer aussi beaucoup de confiance chez ces personnes une fois qu'elles ressortent.
Ça, c'est l'autre partie d'Intergène que j'aime beaucoup, c'est que quand les gens ont commencé à apprendre quelque chose, ils l'expliquent aux autres. Donc ils reviennent à Intergène parce qu'ils peuvent tout d'un coup expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est très encourageant pour eux, c'est très encourageant pour les autres aussi parce qu'ils se disent « Ah, vous êtes informaticien aussi ? Non, moi je suis juste venu à Intergène 2-3 fois. » Cette conversation-là est très agréable à entendre pour tout le monde parce qu'on se sent mis en confiance, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça et puis qu'on peut aussi aider les autres.
Mais est-ce que vous avez déjà dû abandonner puis vous dire « Bon, avec cette personne-là, je n'arriverai pas à transmettre ce savoir ».
Le souvenir que j'ai eu des gens, entre guillemets, où il a fallu abandonner, c'était des gens chez qui, en fait, ils essayent de faire quelque chose, mais ils ne veulent pas faire les étapes pour y arriver. Donc, c'est tout d'un coup de dire « Ok, on va trouver un autre moyen de le faire ». Donc, il y a les gens qui, eux, abandonnent, c'est rare, ou alors ils sont arrivés jusque là où ils voulaient aller, et le reste, ça leur est égal. Donc, du coup, ils ne reviennent pas parce que ça leur est égal. Mais abandonner, non.
Actuellement, est-ce qu'il y a une tendance ? Vos élèves, ils ont de plus en plus de bases solides avec des demandes toujours plus pointues, ou est-ce qu'au contraire, leurs connaissances sont toujours moindres ? Qu'est-ce que vous remarquez ?
Qu'il y a beaucoup de préjugés quant à savoir qui a des compétences en informatique ou pas. Les gens qui savent utiliser pensent qu'ils sont bons en informatique, alors que c'est très souvent pas le cas, c'est même parfois les pires, dans leurs habitudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'abandon. Oui, ça sert à rien, de toute façon, je vais jamais arriver à comprendre. C'est vraiment ce côté résigné, fatigué, frustré. Et quand on sort de la frustration, c'est justement à ce moment-là qu'on vient poser des questions.
Emmanuelle Germont, informaticienne auprès de l'association Intergène, au micro de Théo Chavaya. Jean-Claude Domangeau, ce genre d'atelier d'entraide numérique, de formation ouverte à toutes et tous, est-ce qu'il faut encourager aujourd'hui ?
Cette intervention était absolument limpide, montrait vraiment le travail exceptionnel qu'il réalise dans cette association avec un petit nombre de personnes. Alors évidemment, peut-être en parlerons-nous dans quelques secondes, il faudrait multiplier.
Multiplier et mettre en place ce que vous appelez, des médiateurs numériques, hein, c'est ça?
Exactement, parce que madame parlait de compétences, et je pense qu'il faut avoir des compétences dans, je dirais, les usages des médias numériques. Et il faut aussi avoir des compétences peut-être de psychologiques, des compétences à enseigner ou à guider l'apprentissage des autres. Personnellement, je préconise la création d'une formation. Une formation qui s'appellerait médiateur, médiatrice numérique ou médiateur, médiatrice aux médias numériques. Je trouve que l'idée de média est fondamentale, pas seulement l'idée d'informatique. Et on pourrait imaginer une nouvelle profession donc qui serait proche ou qui pourrait être fondée sur la profession d'animateur, animatrice socioculturelle, mais qui aurait un point fort en ayant un énorme développement de ce point de vue-là. Et bien sûr, il faudrait former des dizaines, des centaines de personnes, et ainsi au moins on aurait un certain type, comment dire, on aurait une profession donc avec une définition claire, avec la formation continue, etc. Et je pense qu'il faut aller là. Je m'étonne même que ça ne soit pas encore fait dans notre pays, parce que j'ai un peu fait des recherches et j'ai vu qu'il existe en France quelques universités qui offrent ce type de formation spécifique-là.
Donc une formation à développer ici en Suisse, on vous entend Jean-Claude Domangeau. On entendait aussi dans le témoignage d'Emmanuel Germont le mot méfiance. Les gens ont peur de faire des bêtises avec leur ordinateur, d'être victimes d'arnaques. Ça veut dire qu'il y a encore un gros travail aujourd'hui pour rompre cette méfiance, pour rassurer. On l'a peut-être encore vu dimanche dernier avec l'échec de la votation sur l'identité électronique.
Peur, peut-être est-elle salutaire d'ailleurs cette peur, plutôt qu'autre chose. Je crois qu'il faut que les gens aient, je veux dire les gens, la totalité de la population, donc y compris ces 20% dont on parlait tout à l'heure, aient la possibilité de tranquillement, j'ai envie de dire, au quotidien, de pouvoir faire un certain nombre d'opérations, en étant éventuellement accompagnés pour une partie de leur apprentissage. J'aimerais peut-être souligner moi-même qui ai enseigné voici quelques années des cours parfois élémentaires pour des personnes qui entraient dans l'usage de l'informatique et qui étaient des collègues enseignants et enseignantes, parce que je viens de ce milieu-là, qu'il fallait un nombre d'heures absolument énorme pour qu'ils soient autonomes, absolument énorme. Et beaucoup de courage de leur part. Donc, je pense que c'est à traiter avec un énorme sérieux et raison pour laquelle, malgré cette association fait un travail absolument exceptionnel. Mais si on veut massifier, si on veut vraiment avoir un plan politique qui va dans ce sens-là, la profession est fondamentale.
Eh bien, on va venir justement à la question politique pour terminer cette discussion. On va s'intéresser avec vous, Mathieu Truffert, à ce que font ou ne font pas nos élus pour lutter contre cet abandonnisme. Est-ce que c'est un sujet pris au sérieux?
Oui, Yann, la réponse officielle au problème de l'abandonnisme numérique qui traverse, comme on vient de le voir, de multiples couches de la société est-elle aussi multiple? Mais elle prend surtout la forme, pour le moment, de rapports et de documents stratégiques. On en est au stade des intentions bien plus que des projets concrets. Cette lenteur s'explique en tout cas en partie par un débat assez classique entre sensibilité politique. Dès qu'on parle numérique, la droite se bat pour créer des conditions favorables à la recherche et aux start-up. La gauche, elle, s'inquiète de justice sociale, de formation et d'égalité des chances. Alors, vous avez parlé, Jean-Claude Domangeau, de cette initiative de Mathias Reynard en 2018. Il y en a une autre en 2016 déjà au Conseil national, qui demandait notamment de réfléchir à la fracture sociale engendrée par le numérique, motion finalement rejetée au motif que la Confédération travaillait déjà sur le sujet. Alors ce rapport officiel de la Confédération, il a mis du temps à sortir. Il est sorti en septembre dernier, il s'intitule « Stratégie suisse numérique ». L'ancien parlementaire Jean-Christophe Schwab, qui était l'initiateur de la motion en 2016, regrette aujourd'hui les grandes orientations de cette stratégie. Beaucoup de sécurité, beaucoup de technique, dit-il, mais un volet social insuffisant. Il s'agit selon lui davantage d'améliorer l'efficacité des connexions sur tout le territoire, de développer la 5G, que de prendre en charge les laissés pour compte du numérique.
Et du côté des cantons, Mathieu ?
Alors, je ne les ai pas tous vérifiés, mais le canton de Vaud, par exemple, a défini ses priorités en 2018. Le document « Stratégie numérique du Conseil d'État » est en ligne, tout le monde peut le consulter. Il accorde une large place à ce qu'il appelle l'accompagnement des personnes. Les principales mesures sont prévues dans les écoles, où des cours d'informatique ont d'ailleurs déjà été réintroduits en 2020, et auprès des chômeurs.
Jean-Claude Domangeau, est-ce que vous partagez aussi ce constat? On en est encore au stade de l'intention politique en matière d'exclusion numérique aujourd'hui en Suisse?
Je dirais même qu'on n'en sort pas, parce que j'aimerais juste rappeler quelque chose qui est d'habitude oublié, que le premier plan qui était pas nommé stratégie suisse numérique a 20 ans. Donc, il y a 20 ans, le même type d'objectif était déjà fixé par le Conseil fédéral, et moi je peux dire qu'ils n'ont pas été atteints.
Et comment ça s'explique, ça, ce retard? Pourquoi on n'a rien fait en 20 ans?
Mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Ils font, mais ils font à tout petit pas. Et je dirais qu'il n'y a pas une... Les discours sont là. Les visions, les études, les plans, tout ce qu'on veut sont là. Parfois, ils sont remarquables, mais ça ne suit pas. J'ai fait une petite recherche pour venir ce matin. Je vous donne juste un chiffre. En 10 ans... la formation aux compétences de base, qui est la clé du problème et qui est nommée ainsi au niveau fédéral, a atteint environ 15 à 20 000 personnes en 10 ans, pas par année, hein, en 10 ans. Ça veut dire que moins de 2% de ces 1,5 million de personnes ont été touchées par ces actions fédérales qui sont déléguées aux cantons, etc.
Est-ce qu'on a aussi peut-être une fausse image de la Suisse technologique, innovante, terre de start-up, qui nous empêche peut-être de voir cette fracture numérique en face?
Oui, alors assurément, et je pense qu'il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants, effectivement, comme l'a dit votre chroniqueur, qui poussent dans l'idée du déploiement des technologies et des services, bien sûr, qui vont faire partie, je dirais, d'un techno-capitalisme. Mais qui oublie tout le volet social, ou enfin qui le, bien sûr il est toujours cité, mais après comme je vous l'ai dit, ça fait 20 ans qu'on en parle et il n'y a pas eu de, à mon avis, de progrès significatif, et tous les discours malheureusement que j'étudie et que je lis sont toujours assez trompeurs, parce que ils transforment parfois des exceptions en généralité, etc. Enfin, tous les moyens habituels, je dirais, de la rhétorique.
Pour finir, rapidement, Jean-Claude Domangeau, comment passer justement des déclarations aux actes?
Il faut mettre en place un grand plan d'aide de proximité, d'une part. Et puis il faut que les élèves à l'école puissent utiliser l'ordinateur au quotidien. Donc à l'école, il faut distribuer du matériel aux élèves, à tous les élèves, et aller dans ce sens-là. Combien de temps j'ai? Combien de secondes?
Eh bien voilà, on va s'arrêter là, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude Domangeau, expert en éducation aux médias. On retiendra vos pistes, vos solutions pour lutter contre cette exclusion numérique. Merci aussi à Théo Chavaya et Mathieu Truffert d'avoir chroniqué l'époque. Bon week-end à tous.
Bonne journée.